Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. L'obligation vaccinale contre le Covid-19 est une réalité en France depuis ce matin. Elle concerne les soignants, qu'il s'agisse des personnels d'hôpitaux, de maisons de retraite, d'aide à domicile ou encore de pompiers, d'ambulanciers. Ils doivent tous avoir reçu au moins une dose, sauf contre-indication vaccinale ou contamination récente, faute de quoi, eh bien, leur contrat de travail sera tout simplement suspendu. Pendant 30 minutes, nous allons débattre de cette décision. Est-ce que c'était le seul moyen de généraliser le vaccin auprès de ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19? Quelles questions cette obligation vaccinale soulève-t-elle? Et puis, quelles conséquences faut-il attendre des suspensions de travail dans un secteur qui a été, ces dernières années, très fortement touché par les coupes budgétaires? Soyez les bienvenus.
RFI.
Et nos trois invités pour ce débat à mes côtés en studio, Patrick Peloux, bonsoir.
Bonsoir.
Médecin et urgentiste français. En ligne avec nous, Marie-Pierre Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes infirmière des urgences de l'hôpital Necker à Paris et membre du collectif Inter-Urgence. Et puis Dominique Noguer, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation de RFI dans le débat du jour. Alors, selon les chiffres de Santé publique France, 88,1% même précisément des soignants salariés ont reçu au moins une dose au 7 septembre, donc ça fait un peu plus de 10% des personnels soignants qui n'ont reçu aucune injection du vaccin contre le Covid-19. Patrick Peloux, est-ce que vous comprenez ces 10%-là?
Oui, je comprends parce que probablement que le début de la campagne de vaccination dans les hôpitaux a été mal comprise. Il y avait deux options qui étaient sur la table. Une option qui était de vacciner tous les personnels en fonction des risques. Moi, c'était celle que je pensais qui devait être prise. Et une autre qui était une classification par l'âge. Et j'exècre toutes les classifications par l'âge dans notre société. Donc, du coup, on a vacciné qui? Les plus âgés dans l'hôpital. Mais il se trouve que les plus âgés, c'est notamment les médecins. C'est ceux qui restent le plus longtemps, puisque, vous le savez, les personnels infirmiers, aides-soignants, ambulanciers restent pas très longtemps dans les carrières hospitalières parce que c'est pas très attractif et c'est très difficile quand vous évoluez dans votre vie de rester à l'hôpital. Donc du coup, ils sont partis. Donc du coup, vous avez eu une véritable lutte des classes qui s'est ouverte et où on a vu des médecins plus âgés qui n'avaient jamais vu un malade du Covid qui se faisait vacciner, pendant que vous aviez des personnels qui étaient au front et qui voyaient sans arrêt, notamment les personnels qui étaient en réanimation, maladies infectieuses, aux urgences, et qui ne pouvaient pas se faire vacciner. Donc je pense qu'il y a eu une mésentente à ce niveau-là. Maintenant, le vaccin, il faut se vacciner, parce que vous avez énormément de personnels qui sont décédés du Covid. J'ai eu deux collègues
Alors on rappelle, vous êtes mieux placé que moi pour le dire, que le vaccin ne protège pas contre la transmission du virus, protège contre le développement des formes graves.
Non, oui, parce que ça a été mesuré. En gros, le virus, quand vous l'avez sur la muqueuse, il reste à peu près quelques secondes, en fait, quand vous êtes vacciné. Non, le vaccin, on n'a jamais eu un vaccin aussi surveillé à travers le monde. Des milliards de doses ont été injectées. C'est un truc, enfin, on est sûr, et ça protège, en effet. Et donc il faut se protéger. Moi je regrette en effet qu'il y ait 10%, mais à mon avis on va arriver à diminuer ce chiffre, mais qui refuse.
Oui, à la PHP justement, Assistance publique Hôpitaux de Paris, on est à 95%
aujourd'hui. Oui, 95% parce qu'il y a eu un effort qui a été fait d'explication, de compréhension. Et je crois que les personnels vont se vacciner. Alors évidemment, il y a des irréductibles, mais j'ai envie de vous dire, des irréductibles qui sont contre le vaccin, qui a tué des personnels et qui refusent de se faire vacciner, il y a un moment donné, il faut qu'ils se posent des questions quant à leur exercice, puisque carrément de remettre en cause la science, c'est quand même assez antinomique de nos professions. Et je terminerai par là. Faut pas oublier que le Covid qu'on a transmis nous bien involontairement, mais ce qu'on appelle le Covid nosocomial, ça a fait des ravages aussi. Donc il y a vraiment une côté citoyenneté de le faire.
Marie-Pierre Martin, vous êtes infirmière des urgences de l'hôpital Necker à Paris. Je vous pose la même question que j'ai posée à Patrick Peloux. Est-ce que vous comprenez ces 10% environ, selon les instituts évidemment et les établissements de santé, ça change, qui refusent toujours de se vacciner contre le Covid-19 parmi le personnel soignant?
Oui, on peut toujours comprendre qu'on ait des collègues qui soient réticents face à ce vaccin, surtout quand on voit que toute la communication qu'il y a eu autour et toute la communication du gouvernement en fait depuis le début de la crise qui a été déplorable. Donc forcément, on peut comprendre nos collègues qui n'ont pas envie de se faire vacciner ou qui ont peur. Il y a eu un réel manque de communication et un réel manque d'information en fait auprès des personnels. Et une réelle remise en cause en fait même des informations puisque on apprend tous les jours et il faut accepter cet apprentissage quotidien et du coup on a des collègues qui sont méfiants parfois à tort, parfois à raison.
Et vous diriez que vous vous opposez vous aujourd'hui à cette obligation vaccinale qui est entrée en vigueur aujourd'hui pour le personnel soignant en France?
En fait, encore une fois, c'est prendre le problème à l'envers. On passe par obliger les soignants plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui nous a mené là et de rectifier le tir. Donc, on passe par des obligations. Et en fait, cette obligation, voir que l'obligation, elle va être délétère pour l'hôpital. Je vais parler d'hôpital public parce que c'est là où je travaille et c'est ce que je vois au quotidien. On a réellement un manque de personnel chronique, on a vraiment beaucoup de complexité à avoir des soignants qui sont formés et qui restent sur la longueur. On a des difficultés au quotidien pour s'occuper de nos patients. Et en fait, aujourd'hui, on va nous retirer ne serait-ce que deux soignants par équipe parce que 95% de la population soignante qui est vaccinée, ça reste énorme. Et en fait, on va nous retirer des collègues dont on a cruellement besoin en fait pour faire notre travail au quotidien.
Alors on va évidemment parler des conséquences des suspensions de travail attendues hein, en raison de cette obligation vaccinale. C'est la sanction qui va tomber à partir d'aujourd'hui. Dominique Noguer, à présent vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, on a entendu Patrick Peloux, on a entendu Marie-Pierre Martin. Tous deux ont dit qu'ils comprenaient le personnel soignant qui refuse aujourd'hui de se faire vacciner, qui s'expose donc aux sanctions. Et quelle est votre position sur le sujet ?
Écoutez, je pense que je vais abonder complètement dans leur sens sur la désastreuse communication du gouvernement, sur la manière dont ce dossier a été vraiment traité de manière à la fois autoritaire, chaotique, enfin vraiment, je pense que c'est une véritable catastrophe. Donc je peux très bien comprendre que toutes ces personnes qui ont été vraiment au plus près de cette maladie et de tout ce que ça a pu amener comme souffrance, etc., voilà, soit un peu quand même ébranlé. Donc je peux tout à fait le comprendre. Maintenant, je pense qu'il y a vraiment, et je crois qu'on y arrivera, un effort de compréhension, de pédagogie, d'explication qui aurait dû être fait d'ailleurs depuis très longtemps. J'ai une amie qui est cadre de santé dans un établissement dans les Pyrénées-Orientales. Quand elle a reçu une lettre recommandée quasiment combinatoire, alors qu'elle est là depuis 25 ans, elle l'a extrêmement mal pris. Je veux dire que ce sont des choses, c'est un manque total de considération, un manque total d'explication, et en plus avec des explications qui sont fausses, souvent, et je sais aussi que ça cache quand même aussi une très grande misère du fonctionnement de l'hôpital. Hein. Je crois qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste, ni médecin, ni infirmière. On a tous compris que depuis des années, on est dans une phase de volonté de régression et de mise à mal de l'hôpital public. Et ça, c'est catastrophique. Donc, ce n'est pas le moment. Il faut être un peu conscient. Et puis, il faut peut-être aussi parler, comme malgré tout aussi, de la gratuité des tests PCR. Hein. Je veux dire, ça s'arrête. Je pense que c'est aussi un véritable problème parce que
ça rentre dans ce cadre justement de sanctions. Et vous avez en commun tous les trois, en tout cas, de dénoncer cette politique du gouvernement. Patrick Peloux, vous souhaitez réagir?
Oui, c'est juste. Faut pas oublier les 110 000 morts. Faut pas oublier qu'on est avec une pandémie mondiale et on a l'impression qu'on a un petit caprice de riche. Je vous le dis comme je crois. Parce que la sécurité sociale paye tout et nous sommes un des seuls pays au monde où tout a été gratuit. Les tests PCR gratuits, la vaccination gratuite. Et on a un espèce de caprice de riche. Vous avez des pays, notamment je pense aux pays d'Afrique, où il n'y a pas le vaccin. Donc d'un coup, le vaccin, il sauve, on le sait. Là, il y a eu des statistiques qui ont été faites par Santé publique France. S'il n'y avait pas eu le vaccin, on aurait déjà au moins 55 000 personnes de plus dans les cercueils. Donc on sait que ça protège, ça ne rigole pas, on sauve des vies.
C'est nécessaire d'aller jusqu'à la sanction.
Il y a le feu au lac.
C'est nécessaire d'aller jusqu'à la sanction.
Les sanctions, je suis jamais pour les sanctions.
Oui, mais alors comment faire pour généraliser justement le vaccin pour ces personnes-là?
Il fallait un levier. Je reprends ce qu'a dit justement ma collègue infirmière de Necker. Il y a eu une très mauvaise communication au départ. Je vous dis, moi la sélection par l'âge, c'est un truc que j'exècre. Bon, ça a été mal foutu. Mais en même temps, ça rejaillissait sur le problème que vous n'avez plus de souveraineté sur le médicament en France, comme on n'a plus de souveraineté sur le matériel médical. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Mais du coup, il n'y avait pas de vaccin. Donc, il fallait, quelque part, ils ont choisi ça. Maintenant, nous sommes le pays au monde avec le plus fort taux de vaccination. Ce qui est intéressant de voir, c'est que là, avec ce fort taux de vaccination, l'épidémie régresse. Il faut voir ce qu'on a entendu il y a quelques jours, hein, avec la rentrée scolaire. Certains faisaient des éoliennes avec leurs bras en disant « les enfants rentrent à l'école, ça va être une catastrophe ». Non, il n'y a pas. Et l'épidémie régresse. Sauf dans deux départements en France, en Polynésie et aux Antilles, où c'est encore une vraie catastrophe.
Et où il y a un sursis d'ailleurs sur ces sanctions-là.
Mais quand vous regardez ce qui s'est passé aux Antilles et en Polynésie, vous avez une population qui a refusé quasiment le vaccin. L'épidémie a flambé comme jamais aux Antilles, parce que vous avez que 18% de gens qui étaient vaccinés. Donc là, évidemment, ça remue, parce que vous avez une surmortalité telle que toutes les familles sont concernées par les décès. Donc d'un coup, c'est le vaccin. Mais là, vous avez une vraie défiance à l'heure actuelle. Alors oui, vous dites, il y a cette coercition qui a été mise en place, et quelque part, il y a le feu au lac. Parce que si vous voulez, là, le variant mu qui a été repéré en Colombie, s'il débarque, on a à nouveau affaire à une nouvelle vague.
Mais en mettant le paquet sur la vaccination des soignants, en agitant comme ça les sanctions, est-ce qu'il n'y a pas le risque de se détourner des gestes barrières? Il y a l'Institut Pasteur récemment qui a alerté là-dessus en disant attention.
Vous avez raison, il faut tout faire parce que c'est une vraie bataille. Non mais c'est une vraie bataille, on n'est pas dans un film de science-fiction. C'est-à-dire qu'il faut garder... Regardez ce qui s'est passé en Angleterre, c'est intéressant. L'Angleterre, ils ont dit « Oh, pas de gestes barrières, pas de masque, machin, on s'en fout, etc. » Ils ont vacciné tout le monde, ils ont une reprise de l'épidémie. Parce que ça tape sur les gens qui ne sont pas fait vacciner. Et comme ils ont une transmission qui est exponentielle parce qu'ils n'ont pas de gestes barrières, voilà les conséquences. Vous avez tous les modèles. Et là, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'a fait le Joe Biden ces dernières 24 heures? Il a dit « Vaccination obligatoire, passe sanitaire. »
Pour 100 millions de travailleurs, à la fois du public et du privé.
Là, vous avez la presse allemande qui a félicité la France par rapport au pass sanitaire. Alors, bien sûr, le pass sanitaire, c'est contestable. Mais j'ai envie de vous dire, le permis de conduire aussi est contestable. Enfin, tout ce qui est contrôle est peut-être contestable. Le problème, c'est qu'il y a le feu au lac. On est en train de sauver des vies. C'est ça le problème majeur. Il ne faut pas l'oublier.
Marie-Pierre Martin, l'urgence de la situation justifie l'obligation vaccinale. Il y a le feu au lac, nous dit Patrick Peloux.
Derrière l'urgence de la situation, il ne faut pas oublier que là, on est en train de parler uniquement de la vaccination des soignants qui atteint, vous le disiez, 88% sur les soignants en général et 95% dans le privé. Et en fait, on oublie que dans la population générale et notamment dans les personnes les plus fragiles, on n'a pas ce taux. Et en fait, on est en train de faire un écran de fumée derrière les soignants, les vilains soignants qui ne veulent pas se vacciner pour faire porter le chapeau aux soignants de l'échec vaccinal, alors qu'en réalité, dans la population générale, il y a moins de vaccinés, même franchement moins de vaccinés.
Il y a près de 10 millions de personnes qui ne sont toujours pas vaccinées aujourd'hui.
Et donc, je trouve ça complètement à côté de la plaque de faire porter le chapeau aux soignants d'une reprise de l'épidémie ou de dire que c'est à cause des soignants et que c'est les soignants sont la clé de voûte, alors que en réalité, les personnels à côté et les personnes vulnérables ne sont pas vaccinées et n'ont pas le même taux, en tout cas, de vaccination que les soignants.
Faire porter le chapeau, vous nous dites, vous qui êtes infirmière des urgences de l'hôpital Necker à Paris, quelle ambiance aujourd'hui? Vous rencontrez des gens qui ne veulent pas se faire vacciner?
Après, moi je travaille en pédiatrie, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de réticence sur la population pédiatrique pour les vaccins. Les parents sont plus réticents à faire vacciner leurs enfants. L'argument qu'on nous sort la plupart du temps, c'est vis-à-vis du recul. Quand on a 40 ans, on n'a pas le même recul que quand on a un enfant de 10 ans face à nous. Maintenant, ça reste une réalité. Donc pour Parler du reste, je vous avoue que je ne saurais pas beaucoup plus. Mais en tout cas, pour la pédiatrie, il y a une réelle réticence.
On va vous écouter, Patrick Pelloux, mais Dominique Noguer voulait réagir, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme.
Je voulais réagir parce que j'entends tout à fait ce que dit M. Pelloux et je abonde tout à fait dans son sens. Il y a le feu au lac, on est tout à fait d'accord. Mais il faut aussi savoir qu'il y a quand même une inégalité de vaccination sur le territoire français. Il y a quand même des tas d'endroits où c'est encore très difficile, pas accessible, et ça, c'est pas normal. Et ça n'est pas normal. Et madame a parfaitement raison de dire qu'il n'est pas logique de faire porter le chapeau à une catégorie de personnel, alors que, effectivement, c'est quand même une décision de politique générale de santé. On devrait pouvoir accéder à une vaccination partout, tout le temps, et beaucoup plus facilement. Et vous savez très bien qu'il y a des territoires, y compris dans la région parisienne, etc., où on sait très bien que le taux de vaccination n'est pas satisfaisant, parce que soit il n'y a pas de moyens, soit il n'y a pas d'accès, soit il n'y a pas d'information, etc. Et c'est ça aussi qui est assez dangereux et dramatique. Je pense que c'est toute cette politique-là qui est quand même à remettre en question pour qu'il y ait une véritable égalité de tous les citoyens devant l'accès à cette vaccination. Et je pense qu'il faudra aussi poser un de ces jours quand même la question aussi de la levée des brevets. Je suis désolée, mais ça veut dire aussi qu'il faut que ces vaccins soient accessibles absolument à tout le monde, y compris dans des pays dont M. Pelloux a cité tout à l'heure. C'est absolument impensable que, voilà, aujourd'hui, on ne puisse pas le faire. Donc, remettons un peu les choses à leur place. La situation des soignants n'est pas celle qui dérègle tout, loin de là. En plus, je pense qu'ils ont suffisamment donné et qu'on leur doit beaucoup de reconnaissance du travail, parce qu'ils ont quand même été maltraités au début, si j'ai bien compris, Peu de moyens, pas beaucoup de moyens de se protéger eux-mêmes, etc. Donc, ça a été quand même une profession qui a beaucoup donné. Donc, leur faire porter le chapeau aujourd'hui, je pense que c'est un peu exagéré. Maintenant, c'est vrai aussi que tout ce qui en a découlé amène à des comportements généraux dans la société française de complotisme, de réactions tout à fait surprenantes qui, je l'espère, resteront très marginales, mais qui existent quand même et qui font entendre des discours qui nous font rester les cheveux sur la tête. Voilà, parce qu'il y a des comparaisons qui sont inadmissibles.
Et qui cristallisent et renforcent effectivement certaines positions. Patrick Pelloux, est-ce que ce n'était pas la priorité de permettre l'accès du vaccin à tous avant d'imposer une obligation vaccinale aux soignants, sinon suspension du contrat de travail?
C'est la complexité de ce débat, parce que ce que vient de dire madame est juste, et merci de rejoindre ce combat sur l'inégalité territoriale d'accès aux soins en France que je combats depuis près de 20 ans. Voilà, on a eu une marchandisation du système de santé. Là, je crois que les grands argentiers, il ne faut pas oublier que la première industrie au monde, c'est l'industrie pharmaceutique. Ce qu'ils ont eu peur au début de la crise, c'était l'ébranlement des sociétés. Rappelez-vous tout ce qu'on a entendu en mars 2020. Et quand le président de la République, devant ce qui se passait, annonce le premier confinement et dit cette maintenant célèbre phrase historique, quoi qu'il en coûte, la santé d'abord, il rejoignait le discours qu'un certain nombre d'organisations comme ATTAC et les altermondialistes avaient de dire il y a pas de, la santé n'est pas une marchandise. Bon. La levée des brevets sur les vaccins en est l'exemple criant. Quand d'un coup, ils découvrent le vaccin par l'ARN messager, qui n'est pas une découverte venue du ciel, ça fait à peu près 30 ans qu'ils travaillent sur les vaccins de l'ARN messager. Et les vaccins par l'ARN messager, croyez-moi, dans les années qui viennent, vous allez en entendre parler parce que ce seront probablement les premiers vaccins contre les cancers. D'accord ? Donc, c'est pas rien. Mais c'est pas une découverte qui tombe du ciel. Bon. Ce vaccin arrive. Que fait Pfizer ? Au lieu, en effet, de se dire on a découvert ces vaccins, soit dit en passant, avec une partie des chercheurs français qui sont allés travailler aux États-Unis. Bon, ça, c'est un autre débat. Et toujours est-il qu'ils construisent leur cuve aux États-Unis, ils ne construisent pas des cuves en Europe ou en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Asie ou en Inde. Ils construisent qu'aux États-Unis. Parce que déjà, le business arrive. Et on court derrière ça. Alors maintenant,
ça détermine d'ailleurs une grande partie de la lutte contre le Covid, au nom de l'économie, sanitaire.
Et derrière ça, vous avez toute une logique qui a été de dire, oui, il y a des manques criant sur l'hôpital public. C'est évident, tout ce qu'a dit ma collègue de Necker est exact. On travaille, c'est épouvantable. On a cru et on a bien travaillé parce que, alors là, on pouvait demander ce qu'on voulait, tout arrivait, etc. Il y a eu des primes qui sont arrivées, fantastique. On a augmenté de 190 euros le salaire de tous les personnels, d'un certain nombre, de quasiment toutes les catégories. C'était formidable, alors que 6 mois avant, on était dans la rue, on défilait, et on nous disait, on ne peut pas faire d'augmentation, vous voyez. Bon, et on est quand même passé seulement de la 26e place sur les pays de l'OCDE des salaires des infirmières qu'à la 18e. Donc, il y a encore du boulot. Bon.
Et ça va encore un peu plus déshabiller l'hôpital public, selon vous, cette mesure, le fait qu'il va y avoir des suspensions de contrat de travail de la part des gens qui ne voudront pas se faire vacciner.
Parce que les personnels sont vaillants et vous avez, là on parle de sur l'assistance publique de 5% qui ne veulent pas se faire vacciner. Tout le reste, je vous assure, quand vous avez des débats avec des infirmières, tout le monde sait qu'il faut se faire vacciner pour protéger. Il y a un côté absolument éthique et déontologique, pas seulement, hein, l'éthique n'est pas seulement médicale, elle est sur l'ensemble des personnels, et ils ont compris ça. Maintenant, si vous voulez, moi, je suis arc-bouté sur cet argument massif qui est de dire ce vaccin protège les personnels. Ça a été épouvantable quand on a commencé à enterrer en mars et en avril 2020, des personnels qui mouraient du Covid.
Et vous avez d'ailleurs dit qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de flambée des contaminations. Non. Mais est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il n'y a pas de flambée des contaminations qu'on peut se permettre cette obligation vaccinale?
Alors,
parce que comme par hasard, il y a un sursis aux Antilles.
Non, mais on n'y comprend rien. Quand même, il y a cette épidémie, nous sommes spectateurs. On ne la domine pas. Le virus fait ce qu'il veut. C'est un virus éminemment politique. Il a fait tomber des gouvernements. Éminemment social, il acutise toutes les fractures sociales parce qu'il touche la pauvreté, il touche la misère, c'est-à-dire évidemment, quand vous êtes miséreux, généralement il y a obésité, hypertension, diabète, c'est tous les facteurs de comorbidité, il touche des départements très pauvres comme les Antilles, donc c'est vraiment, ça tape partout, ça tape partout. Et en effet, on s'attendait à une nouvelle vague, qui arrivait et elle n'arrive pas. Probablement parce qu'on est bien vacciné, parce que le virus a arrêté de circuler, mais nous avons des inconnus avec des variants, comme je le redis, le variant Mu qui est en Colombie, si jamais il arrive, et à mon avis, il va forcément arriver parce qu'il se balade, eh bien là, si le vaccin, il faudra refaire des campagnes de vaccination avec un nouveau vaccin, comme pour la grippe. C'est ça qui nous pend au nez, à mon avis.
Marie-Pierre Martin, on reste évidemment sur ce sujet de l'obligation vaccinale pour les soignants qui entre en vigueur aujourd'hui en France. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque, parce que je m'intéresse à est-ce que ça va déshabiller l'hôpital public, je posais la question à Patrick Poulou, j'aimerais bien avoir votre avis, que certaines structures de santé ne soit plus en état de fonctionner. Alors, c'est une minorité, certes, mais quand on est dans un hôpital public qui est très tendu, je parle de l'hôpital public, ça peut être les EHPAD, les structures de santé, qu'en pensez-vous?
En fait, ça va être compliqué de faire pire que cet été, déjà. Enfin, on espère ne jamais avoir à revivre ça. Pour rappel, cet été, il y a plusieurs services d'urgence qui ont fermé, notamment dans la région en Ille-et-Vilaine, où ça a été assez compliqué. On a eu des lignes de SMUR qui ont fermé. On a, par exemple, la ligne de Aix, Aix-en-Provence, qui avait deux lignes il y a quelques années, qu'on n'a plus qu'une actuellement, qui a dû fermer 11 jours au mois d'août par manque de présence médicale. Donc en fait, on a déjà un souci d'effectifs chronique dans tout l'hôpital. Donc déshabiller l'hôpital, il est déjà tout nu depuis très longtemps. Et effectivement, il y a un risque qu'il y ait des soignants qui se détournent de leur métier. Et on n'a pas le luxe de se permettre de perdre ces soignants-là aujourd'hui.
Et s'il y a, Patrick Peloux évoquait les variants, des nouvelles vagues qui pourraient arriver, comment faire face? Parce que là, il n'y a pas cette tension, mais s'il y a cette tension et s'il y a des personnels en moins en raison de l'obligation vaccinale, c'est une équation qu'on ne peut pas résoudre.
Le travail, il sera toujours fait et il a toujours été fait. Dans quelles conditions, on fait comme on peut avec les moyens qu'on a. On continuera à laisser des gens sur le côté. Après, il faut se poser la question du système de santé qu'on veut et de la réforme plus profonde. Et mes collègues parlaient de la levée des brevets des vaccins. C'est une réelle solution pour endiguer cette pandémie qui est mondiale. En fait, si on cherche juste à endiguer le problème en France, ça ne marchera pas. On continuera à voir éclore des variants à droite, à gauche. La réalité, c'est que si on veut avoir une réelle impact sur cette pandémie, c'est qu'il faut agir au niveau mondial. Il faut lever les brevets, que toutes les populations puissent avoir accès à ce vaccin. Et ça va bien au-delà du vaccin du Covid, pour que ça marche pour tous les vaccins, en fait.
Mais là, pour vous, on se trompe de méthode ou c'est une mesurette ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis le début, la méthode n'est pas bonne, que ce soit dans la méthode de communication ou dans la méthode de vaccination. Au lieu de gérer pays par pays, quand c'est quelque chose qui secoue le monde entier, il devrait y avoir un soutien mondial et il devrait y avoir personne qui se fait de l'argent sur la pandémie.
Alors justement, sur la méthode, Dominique Noguer, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, vous avez dénoncé la communication du gouvernement. Est-ce que c'est une nouvelle ligne qui est franchie en France, selon vous, après bien l'obligation du pass sanitaire, et notamment pour les professions qui accueillent du public, les bars, les restaurants, c'est le même cas finalement, on peut faire une comparaison. Ils risquent eux aussi de ne plus avoir de travail s'ils n'ont pas de pass sanitaire, comme les soignants peuvent avoir leur contrat de travail suspendu en cas de non-vaccination. Est-ce que voilà, c'est une ligne inédite franchie en France ?
Moi, je pense que c'est une ligne, effectivement, une ligne rouge qui a été franchie. Écoutez, moi, je vis beaucoup dans un autre pays voisin d'une autre qui est l'Espagne, où il y a un taux de vaccination extrêmement important aussi, puisqu'ils ont fait des efforts absolument colossaux. Et vous avez une population qui a adhéré très massivement à la vaccination. Il n'y a pas de passe sanitaire. Il y en aura peut-être un, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, il y a des contraintes de place dans certains lieux, etc., etc. Mais il n'y a pas de passe sanitaire. Ça n'existe pas. Donc, je pense que nous avons quand même si la nécessité de se vacciner, j'ai bien entendu les discours et je les approuve, cette question du passe sanitaire pose quand même un certain nombre de questions. Parce que vous avez aussi, par exemple, la personne qui fait le contrôle, qui ? Est-ce que ça n'est pas aussi une privatisation, voilà, des contrôles, des difficultés ? Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas eu de problème, mais sauf à un endroit où vraiment la manière dont on me l'a demandé m'a littéralement hérissé les cheveux et je suis partie parce que je trouvais que ce n'était pas comme ça qu'on devait faire. Voilà, maintenant, je trouve qu'il y a quand même une ligne rouge qui a été franchie et je crois qu'il faut qu'on en soit conscient. Mais c'est aussi un manque, comment dirais-je, de considération dans l'ensemble de la population. Voilà, en gros, on infantilise. Vous devez vous faire vacciner, il faut prouver que vous l'êtes, vous n'êtes pas capable de vous débrouiller. J'entends tous les autres discours, mais c'est quand même un véritable problème. Et quant aux sanctions de suspension du contrat de travail, eh bien, je pense que ça va poser quand même de sacrés problèmes. Alors, évidemment, on a un peu tourné la difficulté, parce qu'au début, on parlait de licenciement. Alors là, je pense que le Conseil des prud'hommes, il se serait régalé.
Ça n'a pas été accepté, ce sera une suspension de contrat de travail.
C'est beaucoup plus intelligent, entre guillemets. On suspend, on vous prive de vos ressources, et puis on attend que vous reveniez. Sinon, vous n'avez plus rien pour bouffer, vous n'avez plus rien pour vivre. Donc il y a quand même une coercition là qui est extrêmement forte et qui fait qu'on est passé, à mon avis, à un stade supérieur. Là. Donc on n'en est qu'au début, on va bien voir comment les choses vont se passer, mais je pense que c'est en tout cas pas comme ça qu'on aurait pu imaginer que dans un pays démocratique, on fonctionne.
Voilà. Ça signe, ce sera le mot de la fin, on va terminer avec vous parce qu'on est déjà à la fin du débat, ça signe l'échec, selon vous, de la politique française de lutte contre le Covid-19 ?
Alors, je ne dis pas que c'est une lutte, un échec de la lutte contre le Covid-19. Je pense que c'est, encore une fois, les moyens et la méthode...
Parce que vous compariez avec l'Espagne.
Oui, ben je pense que, par exemple, ben voilà, ça ne s'est pas passé pareil. Et je trouve que ça s'est passé beaucoup mieux de l'autre côté des Pyrénées.
Eh bien, merci beaucoup, Dominique Noguer, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Merci à Marie-Pierre Martin, qui était également en ligne avec nous, infirmière des urgences de l'hôpital Necker à Paris, membre du collectif Interurgence. Et merci à Patrick Peloux, à mes côtés en studio, médecin urgentiste, pour ce débat donc consacré à l'obligation vaccinale des soignants contre le Covid-19 qui entre en vigueur ce mercredi en France. Vous pouvez évidemment réécouter ce débat, le podcaster sur RFI.fr. Merci à Florence Ponce, à la préparation, Laurent Philippot à la réalisation. Demain, faut-il craindre une judiciarisation de la vie politique en France ? On s'exprime après la mise en examen de l'ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale dans 30 secondes. RFI Soir.
Business Africa, salon des entreprises.